France Inter, le 18-20.
Les chiffres, vous les connaissez, 1,5 million de contributeurs répartis plus ou moins également entre les débats, les contributions par Internet et les cahiers de doléances. Vous savez que ça a coûté 12 millions d'euros. Vous savez que 10 000 débats ont été organisés en France. Et vous savez aussi qu'on a beaucoup parlé d'exaspération fiscale. Le terme, ce sont les mots du Premier ministre. Ce que vous ne savez pas, et nous non plus, c'est ce que le Président de la République va retenir, quelles mesures il prendra pour répondre. De grands chantiers, en tout cas, a dit tout à l'heure devant les députés Édouard Philippe, il a parlé de décisions immédiates et puissantes. Fermez les guillemets. Alors on imagine qu'on va beaucoup parler d'impôts, on sait qu'on parlera aussi dépenses publiques, mais apparemment pas trop d'ISF, pas trop de RIC non plus, de référendum d'initiative citoyenne. Et au final, vous, alors, est-ce que vous êtes dans l'état d'esprit de beaucoup de bruit pour rien alors? Est-ce que vous êtes plutôt joueur et vous dites, allez, pour voir, on met les cartes sur la table. En tout cas, on devrait être fixé assez vite et sans doute maintenant, les choses sérieuses sont-elles en train de commencer? Et c'est là, en effet, que nous verrons s'il y a un avant et un après grand débat, si cette conciliation a servi à écouter ou à endormir, pour être clair. En attendant le président Macron et ses conclusions, c'est à vous de nous dire votre sentiment, et c'est tout de suite.
Fabienne Saint-Ès, le téléphone sonne.
Le premier, c'est vous, Roland, soyez le bienvenu, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Roland.
Eh bien, j'ai écouté le Premier ministre et moi, il me paraît tout à fait interpréter les conclusions du grand débat à l'aune de son propre credo, c'est-à-dire l'ultralibéralisme impulsé par la Commission européenne, moins d'impôts et moins de services publics, naturellement, corrélativement. Moi, j'ai participé au grand débat, j'ai contribué en ligne, j'ai participé à plusieurs petits débats dans ma région et ce que j'en ai ressenti de ces petits débats, c'est que les Français veulent le maintien des services publics et même plus de services publics qu'ils n'en ont actuellement parce que beaucoup ne fonctionnent pas bien. Et puis d'autre part, ils veulent de la justice fiscale. Et ça passe certes par le moins d'impôts pour les moins favorisés, mais plus d'impôts corrélativement pour ceux qui peuvent mieux contribuer. Et je voudrais juste citer deux chiffres. Le président de la République, le 9 décembre, il a reconnu, je crois que c'était ses propres paroles, que demander 1,7% supplémentaire de CSG à des retraités moyens, c'était un trop grand effort. Il reconnaissait par là qu'il y a des millions de Français qui sont à 30 euros près pour finir leur fin de mois. Et en même temps, comme il dirait, il a fait un cadeau moyen de plus de 9 000 euros aux 300 000 Français les plus favorisés. Est-ce qu'il n'y a pas là véritablement de l'indécence? Et je voudrais juste, je ne sais pas...
Et rapidement, Roland, si vous le voulez bien, juste pour qu'on puisse avancer, mais allez-y, finissez.
Voilà, je ne sais pas qui va commenter mon intervention, mais je voudrais bien qu'on ne nous serve pas les salades habituelles de M. Le Maire, c'est-à-dire la fameuse théorie du ruissellement, qui devrait favoriser au moins, bénéficier au moins favorisé. On voit en fait qu'elle est à l'œuvre depuis 30 ans et qu'il y a de plus en plus...
D'accord, donc on a compris ce que vous ne vouliez pas entendre. On va tâcher de ne pas vous répéter ce que vous ne voulez pas entendre, mais enfin en même temps, on verra bien ce que chacun aura envie de répondre. Merci beaucoup, on a entendu en tout cas, Roland, ce que vous disiez sur à la fois ce que vous avez entendu, vous, ce que vous avez vécu, vous êtes dans le Morbihan, dans ce que vous avez vu, là où vous avez été, ce à quoi vous avez contribué et les conclusions qui semblent être tirées pour l'instant par le Premier ministre. Alors pour répondre à vos interrogations, Roland, autour de la table, Olivier Roucan est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, enseignant-chercheur en sciences politiques et bonsoir à vous Gaël Slimane.
Bonsoir.
Président et cofondateur de l'Institut de sondage Odoxa. Et c'est vrai que Gaël Slimane, je commence avec vous, ce que dit Roland, c'est des choses qu'on commence à entendre en fait. Il semble y avoir une sorte de, comment j'appelle ça, une sorte
hiatus.
De dichotomie, enfin, entre ce que les uns ont compris et ce que les autres ont réellement dit. Et de vous à moi, j'ai l'impression que ça va être quand même ça pendant un certain temps, parce que on va pouvoir ouvrir la porte à des interprétations diverses, c'est bien ça le souci.
Oui, c'est ça le souci. D'abord, vous avez rappelé, Fabienne, ce qu'étaient les contributions issues de ces grands débats et leur nature diverse. On pourrait dire aussi que dans la nature diverse, il y a la nature aussi des questions posées. Vous avez des revendications très spontanées qui ont été faites par les gens, notamment s'agissant du RIC que vous évoquiez ou de la suppression de l'ISF. Et quand vous avez 3%, 4%, 5% de revendications spontanées issues des cahiers de doléances, par exemple, qui portent sur un sujet, c'est pas du tout négligeable. Et tout ça est mélangé avec des questions classique de sondage, j'ai envie de dire de façon quantitative, sur la plateforme du Grand Débat, où on vous pose une question à oui-non, est-ce que vous trouvez que l'écologie c'est bien ou c'est mal, et vous avez 84%.
Ça, c'est le sondeur en vous qui parle, par ailleurs.
Oui, parce que
pas valeur de sondage dans une consultation, toute façon.
Non, ça n'a pas valeur de sondage. Il y a un problème aussi de représentativité. C'est-à-dire que quand vous avez, même si c'est une formidable démarche, 1,5 million de personnes qui participent à une initiative, ça veut dire que les 65,5 millions d'autres ne l'ont pas fait. Et que contrairement à un sondage qui porte sur des plus petits échantillons, mais où on a pris le soin d'avoir la même proportion d'ouvriers, de cadres, de jeunes, de vieux, de personnes qui habitent sur tous les territoires, là, participent ceux qui veulent bien participer. Une fois qu'on a dit ça, Fabienne, quand même, dans la restitution qui a été faite par le Premier ministre, il y a un élément qu'on a retrouvé dans toutes les enquêtes d'opinion, qui est ce ras-le-bol fiscal et cette question des impôts, cette nécessité de baisser les impôts. Sauf que, dans les enquêtes d'opinion, et comme je crois, dans ce que j'ai vu des contributions, c'est associé à une autre thématique, et qu'évoquait notre auditeur, qui est la question souvent du pouvoir d'achat et de plus de justice fiscale, et notamment des problèmes des retraités. Or, le Premier ministre a fait un choix politique puisqu'il prépare l'après, et il a associé assez logiquement, peut-on penser, cette question de baisse rapide et forte des impôts à moins de dépenses publiques. Et donc, comme le disait l'auditeur, je pense qu'il a bien compris ce qui se préparait probablement. Si on baisse les impôts, dans la logique du gouvernement d'Édouard Philippe et du président Emmanuel Macron, il y aura effectivement probablement des baisses de la dépense publique et donc probablement des baisses des services publics. Et c'est vrai que ce n'était pas une attente, ni des Français, ni des personnes qui ont été sollicitées lors de ce grand débat.
Olivier Roucan, c'est vrai que ce qu'on entend est, par ailleurs, depuis le début sur les ronds-points, en fait. Effectivement, ça parle de trop d'impôts, ça parle surtout de mauvaise répartition. Au fond, est-ce qu'on fait exprès, d'une certaine façon, en ce moment, de ne pas entendre ces deux visions-là, ces deux bouts de l'omelette, en gros?
Je pense que l'interprétation que fait le Premier ministre est une interprétation politique qui, en fait, conduit à tirer les résultats de la synthèse, qui sont des résultats, de toute façon, par définition, flous, incertains, encore plus que ne le sont les sondages. Il les tire dans la direction qui l'intéresse, c'est-à-dire il va essayer de légitimer davantage encore son programme, puisque cet après-midi, il a encore dit on n'est pas allé assez vite, par exemple.
Les réformes sont les bonnes réformes, j'ouvre les guillemets, les réformes sont les bonnes réformes, les Français nous disent surtout que ça ne va pas assez vite, c'est ce qu'il a dit devant les députés.
Si on prend les contributions, c'est très simple et rapide, les contributions sur la fiscalité, la première chose qui est remontée, c'est pas la baisse des impôts, c'est l'idée qu'il y ait plus de personnes qui paient l'impôt sur le revenu. Le deuxième point, c'était il faut réformer et simplifier la fiscalité. Et en troisième point, on avait la baisse des impôts. Donc, vous voyez, il y a quand même une interprétation qui est très, partielle, voire partielle, du résultat de cette synthèse. Et les résultats de cette synthèse, ils seront très, très compliqués pour des tas de biais méthodologiques à interpréter. Donc, il faut pas les interpréter justement comme un sondage. Depuis hier, on extrait des pourcentages de ces contributions. Selon moi, c'est véritablement ce qu'il ne faut pas faire.
Et c'est le Premier ministre qui le dit aussi, puisque c'est le premier à avoir parlé à partir d'hier. Et qui continue à le faire. D'ailleurs, juste en parenthèse, Gaël Slimane, cette séquence, avant d'arriver jusqu'au président de la République qui finira par donner des conclusions, là aussi, évidemment, c'est quelque chose de très politique. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là, en fait? Est-ce qu'on est en train de donner réellement des pistes? Est-ce qu'on est en train de préparer le terrain sur ce qui va être annoncé par le président de la République? Qu'est-ce qu'on est en train de faire politiquement?
Alors, d'abord, avant d'être politique, et ça l'est aussi, mais d'abord, il y a une question de respect. À partir du moment où on a mobilisé tant de personnes et le débat public, politique et médiatique depuis des mois sur ce sujet, à minima, c'est ce qu'on fait quand on fait des enquêtes de climat social, par exemple, dans les entreprises, le minimum, c'est de dire, de scénariser un petit peu la restitution en disant « je vous ai compris, vous m'avez dit ça, ça et ça ». Après, il y a un peu de politique. C'est-à-dire que on peut mettre dans un même tiroir des poires et des bananes, ce qui a été un petit peu fait.
Mais pour l'instant,
en l'occurrence,
le « je vous ai compris », il est là quand même ou pas?
Le « je vous ai compris », c'est « vous m'avez dit ça ». Vous m'avez dit ça, et en filigrane, c'est ce que disait votre auditeur, et c'est ce à quoi on réagissait l'un et l'autre, vous m'avez dit ça, et en même temps, je commence à préparer le terrain de ce que va annoncer le président de la République, qui ira à coup sûr sur une baisse des impôts, et à coup sûr aussi, alors que ce n'était sans doute pas explicitement demandé dans les contributions, vers une réduction de la dépense de l'État et probablement une réduction d'un certain nombre de services publics. Ce sera sans doute pas assumé, pas dit clairement, mais ce sera difficile de ne pas faire l'un et l'autre dans la logique de cet exécutif.
Bah, il faudra aussi, ouvrez les guillemets encore une fois, c'est Édouard Philippe qui parle, remettre du service public et donc remettre des fonctionnaires sur le terrain, Olivier Roucan, c'est aussi ce que dit le Premier aussi. Ministre aujourd'hui.
Voilà, sans doute. Alors, il faut espérer qu'il amende son projet de réforme de l'État tel qu'il était jusqu'à présent plus ou moins ficelé. L'idée de déconcentrer davantage, de remuscler les services territoriaux de l'État, pourquoi pas. Simplement, dans bon nombre de secteurs, on est allé jusqu'à présent dans le sens contraire. Donc là, il faudra voir, mais il y aura beaucoup de méfiance par rapport aux annonces et aller vite dans ce domaine et avoir des résultats identifiables par l'opinion, ça semble très difficile.
Bonsoir Yvon.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu Yvon, on vous écoute.
Bonsoir, merci d'avoir choisi ma question très rapidement. Et je voudrais souligner une contradiction. Le président de la République, depuis 5 mois, dit « je ne vais pas changer de cap ». Donc il ne va pas changer de politique depuis bientôt 2 ans. Et les Gilets jaunes veulent tout changer. Donc il y a une grosse contradiction. Et pour continuer le début de la discussion de ce soir, vous avez parlé de la baisse des impôts et la qualité du service public, très cher aux Gilets jaunes. Est-ce qu'on peut être très machiavélique et imaginer que baisse des impôts, baisse de la qualité d'un service public et continuer sur beaucoup de privatisation, c'est-à-dire une société de plus en plus libérale?
Yvon, merci beaucoup Gaël Sliman pour répondre à ce que dit Yvon.
Il y a une première chose qu'a dit Yvon qui est intéressant, qui est que il a parlé des gilets jaunes. Mais le grand débat, c'est pas les gilets jaunes. C'est-à-dire que c'est venu, ça a démarré suite à la crise des gilets jaunes. Mais les personnes qui se sont exprimées sont très diverses et probablement ont un profil et des aspirations largement différentes de celles des Gilets jaunes, qui eux-mêmes ne représentent pas l'ensemble de la population française.
Sauf que le grand débat, c'était le Canadair pour essayer d'éteindre un peu les Gilets jaunes.
Mais c'est une très bonne métaphore, c'est exactement ça. Mais c'est un Canadair aussi pour dire, dans les revendications des Gilets jaunes, il y a par exemple le RIC, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ils ont dit de manière un petit peu rapide hier que finalement c'était très anecdotique comme revendication. Alors, c'est très excessif puisqu'ils se sont appuyés pour ce faire, vous le disiez Olivier Roucan, sur des pourcentages qui étaient des pourcentages liés à des revendications spontanées. Donc les 2, 3, 4% évoqués ne sont pas du tout si négligeables que ça. C'est à moitié exact quand même, parce que quand on regarde dans les enquêtes d'opinion, on voit que les Français sont largement favorables au RIC, comme à la suppression de l'ISF d'ailleurs, dont le gouvernement ne veut pas entendre parler. Et en même temps, comme dirait l'autre, c'est vrai que ce ne sont pas les préoccupations majeures de nos concitoyens. C'est pas ce qu'il y a de plus important et de plus urgent à faire aux yeux des Français, mais si vous leur demandez s'ils y sont favorables, ils le disent très largement. Donc la réponse qui a été donnée est une réponse qui dépasse de très loin le mouvement des Gilets jaunes, et de ce point de vue-là, on verra ce que ça peut donner dans les semaines qui viennent en termes de mesures et en termes de réponse aux attentes des Français, qu'il n'y ait pas ce risque déceptif, entre guillemets, évoqué par l'exécutif il y a quelques semaines.
Alors, évoqué il y a quelques semaines, le Premier ministre a rajouté, attention, la synthèse sera réductrice, il y a des paradoxes, il y a des contradictions, ce qui est aussi une manière de préparer le terrain. Olivier Roucan, on employait tout à l'heure, j'employais la métaphore de l'incendie, mais ce que ça veut dire, c'est que on n'a pas éteint l'incendie gilet jaune, au fond, ça veut dire qu'il y aura d'autres samedis, par ailleurs, avec si les réponses restent dans cet ordre d'idées, on va dire.
Oui, et même d'ailleurs, quand on pense à la conférence d'hier, le Premier ministre a même joué de l'opposition, puisque de lui-même, il a opposé le compte-rendu d'un débat apaisé aux manifestations des samedis. Alors que l'objectif, c'est de rendre les deux choses complémentaires pour un gouvernant, parce que, en plus, les publics qui ont participé aux deux types de manifestations de démocratie, en tout cas d'émergence démocratique, ne sont pas les mêmes.
Alors, on va y venir, effectivement, à la sociologie. Je voudrais juste qu'on n'oublie pas la suite de la question d'Yvon, parce que elle fait écho aussi, non pas au RIC, mais au RIP. En ce moment, il parlait de privatisation. Là, en l'occurrence, le RIP, c'est sur l'histoire d'ADP. Le risque de privatisation dont parle Yvon, est-ce que c'est c'est un risque évalué, évaluable, qui existe. Est-ce que c'est une frayeur qui n'a pas lieu d'être de sa part, à votre avis, l'un ou l'autre?
C'est un programme qui existe. Hein. Le gouvernement a annoncé qu'il souhaitait alors ou privatiser ou ouvrir le capital d'un certain nombre d'entreprises publiques afin de tout simplement d'avoir des rentrées financières momentanées plus élevées. Donc ça, c'est quelque chose qui se pratique en plus maintenant systématiquement depuis 30 ans au moins. Donc c'est vrai que, et l'auditeur précédent parlait de ce néolibéralisme dominant, bon ben si c'est ce qui le gêne, il risque d'être un peu déçu par la réponse gouvernementale.
Je reviens à ce que vous disiez, j'en profite pour réinterpréter une question de Didier de Nogent-sur-Marne sur qui sont les gens qui ont réellement répondu. Il y a une sociologie qui est incroyablement claire et qui, surtout, Olivier Roucan, est géographique. Et c'est très étonnant, il y a des endroits, notamment les Ardennes, le Pas-de-Calais, le Nord-Est, où certaines banlieues, on n'a absolument pas participé, d'autres beaucoup plus.
Oui, oui, oui. Si on prend les contributions en ligne, parce que là aussi, il faut distinguer les choses.
Absolument.
Hein. Mais si on prend les contributions en ligne, il est vrai que les zones où on participe le moins, eh bien, ce sont les zones qui, électoralement, s'abstiennent le plus, habituellement, avec des réserves.
Nord-Est, hein.
Ou même vote, lorsque les gens vont voter, beaucoup au Rassemblement National. Mmh. Donc, il est vrai qu'il y a, notamment pour toute la France du Nord-Est, on peut... Ce n'est pas une cause, ce qui vient d'être indiqué, et c'est pas une corrélation, mais il y a une ressemblance. On a pu voir en Île-de-France aussi, par exemple, qu'un département comme les Yvelines ou les Hauts-de-Seine, il y a une surreprésentation des contributions en ligne, alors qu'en Seine-Saint-Denis, on est véritablement à un niveau de participation très faible.
Ouais, et dans Paris, c'est intéressant de regarder les arrondissements, grosse participation, 15e, 9e, arrondissement assez riche, une participation quasi zéro, 18, 19, 20e dans des endroits plus populaires. Je vois que la Drôme, le Lot et la Nièvre ont été très bons très bons contributeurs. C'est extrêmement intéressant, Gaël Slimane, de regarder cette carte.
Oui, c'est intéressant de regarder la carte, c'est intéressant de regarder la géographie, c'est intéressant de regarder aussi la sociologie, ou le peu que l'on en connaît. Et on revient à cette histoire de représentativité. Mais en même temps, c'est pas très étonnant, finalement, que une nouvelle expérience démocratique nécessitant de s'impliquer, d'y croire un minimum, de participer, eh bien, finalement, voit les populations qui sont celles qui s'abstiennent le moins habituellement participer aussi à ce... Ils y croient encore, d'une certaine manière. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette initiative, parfois on dit, finalement, ça donne le même résultat que les sondages.
Bah, au fond,
ouais.
C'est-à-dire, en gros, ceux qui n'y croient pas, n'y croient toujours pas, et ceux qui y croyaient, ils croient toujours puisqu'ils y participent. Enfin,
oui, mais c'est
à la fois, on parle avec les mêmes, en fait.
Oui, mais c'est vrai. C'est un reproche qu'on peut faire, ou une observation qu'on peut faire. Mais en même temps, ça a été un moyen de faire participer des centaines de milliers, même 1,5 million de Français, à une démarche, avec, in fine, une restitution qui, pour l'essentiel, si on laisse de côté les grosses ficelles politiques qui ont été employées hier, donne en gros, restitue assez bien ce que sont les attentes des Français. Après, on va rentrer dans le jeu politique et ce sera autre chose.
Olivier Roucan ?
Oui, on continue un peu sur la sociologie. On voit par exemple que celle des contributions en ligne qui favorisent les CSP+, relativement actives, etc. Les réunions locales, c'est une sociologie un peu différente. C'est CSP+, mais c'est un peu plus urbain. Donc, il y a plus de rural et plus âgé aussi. Donc, c'est une sociologie qui est très imparfaite, hein, parce qu'on a pour l'instant des informations très parcellaires. Donc, il faut faire très attention à tout ceci. Dans tous les cas, ce n'est pas à l'évidence la sociologie qui, elle aussi, est très difficile à faire, mais qui existe quand même un peu des gilets jaunes. Hein. Donc, dernière remarque, on dit, il faut faire très attention avec les chiffres, on dit tant de participants. Ouais. Bon, aujourd'hui, vous avez Le Monde qui a collecté les données et qui nous explique en gros que la moitié des contributions en ligne, en fait, c'est du copier-coller.
Mmh. Oui, c'est ça.
Donc,
parce que ce sont les mêmes mots, ce sont exactement les mêmes expressions.
Grande prudence, parce que si on a plus 500 000 contributions, mais qu'on en a 250 000 Vous voyez, ça change quand même. Il faut arrêter avec les chiffres.
Des contributions hein et pas des contributeurs.
Absolument. Ouais. Et est-ce qu'on pourra savoir, d'ailleurs, si effectivement il y a un problème de contributeurs et contributions? Sincèrement, est-ce que à la fin on sera capable de faire ce tri-là réellement ou
oui,
pas?
Oui. Enfin, alors, pour le coup, c'est.
Est-ce que ça veut dire qu'on éliminera, par exemple, quand on sait qu'il y en a deux qui sont la même, ben on en éliminera une. En gros, c'est l'idée. Ou bah, pas.
Je pense c'est que faisable. Oui, même c'est en faisable, texte, mais... c'est faisable. Simplement, est-ce que c'est vraiment, si vous voulez.
Pertinent statistiquement, je suis pas sûr parce que
moi je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant et pour l'instant c'est ce qu'il y a de plus difficile à collecter et à synthétiser, ce sont les cahiers de doléances. Et là, parce que là, par contre, c'est une participation beaucoup plus ouverte qui est arrivée en mairie.
Absolument. Ce sont des lettres souvent manuscrites. Ça dit ouais, des voilà, choses ouais, qui racontent des histoires qui n'ont pas une opinion précise sur les choses, mais qui racontent une histoire.
Simplement, les historiens vous disent aujourd'hui qu'interpréter ces cahiers de doléances, là, il va falloir beaucoup de temps. Donc, ce n'est pas utile aux propositions gouvernementales immédiates qui pourraient être faites.
Bonsoir, Philippe.
Bonsoir,
soyez le bienvenu Philippe, on vous écoute.
Moi je pense qu'on met les Français devant, on crée une contradiction, on met les Français devant une contradiction. À savoir, si vous voulez un service public efficace, il faut payer de l'impôt. Donc vous choisissez, soit vous payez de l'impôt, soit eh bien, on dépèse un peu plus les services publics. Or aujourd'hui, l'impôt ne va plus à l'impôt. Lorsque vous êtes vous devez payer des impôts, vous êtes dans des tranches élevées, et ben vous avez accès à des produits financiers, immobiliers pour alléger votre impôt. Donc il faudrait peut-être revoir tous ces produits pour que l'impôt aille au service public et n'aille plus alimenter des entreprises privées, des services privés, et reviennent pour l'éducation, pour la santé, pour les retraites, et tout ce qui fait le lien de notre pays.
Merci beaucoup, Philippe. Gaël Slimane, moi j'ai l'impression de revenir 5 mois en arrière en écoutant la question de Philippe, mais c'est ça qui est passionnant dans sa question, parce qu'à la fin, effectivement, c'est là que ça revient. Le fameux fléchage de l'impôt, la fameuse difficulté de savoir où vont l'argent, c'est-à-dire c'est pas moins d'impôts, mais c'est une meilleure répartition. On a une foule de questions sur ce sujet. Ouais. Ce qui nous manque, c'est une répartition juste des impôts, la manière dont on s'en sert. C'est ce que nous disent à longueur de questions tous les gens.
Oui, moi, alors je retiens deux choses dans ce que dit Philippe. Ce que vous avez souligné, effectivement, et ça c'est une demande récurrente et peut-être une illusion consistant à se dire qu'il y aurait des possibilités, des moyens de ne pas avoir moins d'impôts collectivement, quantitativement, mais de faire en sorte que ceux qui y échappent alors qu'ils sont très fortunés eh bien, puissent être davantage captés. Je dis peut-être illusoire parce que c'est structurel depuis 30 ans que cette demande existe et que les Français nous disent non. Il faut pas faire payer plus d'impôts à ceux qui le payent déjà. Il faut arriver à aller capter ceux qui arrivent à se soustraire, peut-être à la manière de ce que fait l'IRS aux États-Unis. Vous êtes obligé de payer l'impôt où vous alliez dans le monde. Il y a peut-être des solutions à trouver, mais pour l'instant, personne ne les a trouvées. Il y a ce volet-là, un meilleur impôt, mieux utilisé, et que ce soit pas les riches, avec la suppression de l'ISF, qui y échappent. Et puis, il y a une deuxième idée. Il fait le lien avec les services publics et il nous dit, on va être piégé parce qu'on a une double attente, si je traduis un petit peu, qui est certes moins d'impôts et de prélèvements pour le plus grand nombre, et en même temps aussi de continuer de disposer, il a employé les mots, de services publics sur l'éducation, sur la santé. Et il a parlé des retraites. Or, si vous voulez, dans une politique d'inspiration libérale qui est celle que mène le gouvernement, si vous voulez respecter les engagements sur la dette et les déficits, et si vous voulez baisser les impôts et les prélèvements, la seule solution qui s'offre à eux, politiquement, est de réduire la dépense publique. Or, les principaux postes de dépense, les trois qui pèsent, sont les trois qu'a cité Philippe, c'est-à-dire l'éducation, la santé, mais aussi les retraites. Et il y a cette idée, vous savez, d'augmenter l'âge de départ à la retraite, parce que tout ça fait sens. Et la grosse difficulté, c'est qu'en voulant satisfaire les Français dans les semaines ou les mois qui viennent, en leur disant « rassurez-vous, je vais baisser vos impôts », sachant que ce sont les plus riches qui contribuent le plus en termes d'impôts quand même statistiquement, mais ça vous fera moins de services publics, moins d'éducation, moins de santé, un âge de départ à la retraite plus tardif, ça ne fera pas plaisir à nos concitoyens.
Olivier Roquant, c'est vrai que c'est ce qu'on nous dit, en fait, c'est un peu la perception qu'ont les gens, en fait. Ah bah ouais, mais faut choisir, hein, c'est l'un ou l'autre, les services publics ou les impôts.
De fait, c'est une injonction contre rigueur. Si vous baissez trop les impôts, vous baissez les aides sociales, vous baissez un certain nombre de financements auxquels les gens sont relativement attachés. Donc ça, c'est une vieille contradiction. Le problème, c'est quelles sont les marges de manœuvre. Pourquoi existerait-elle soudain à l'issue du grand débat alors qu'elle n'existait pas avant? Et je rappelle qu'il y a des élections européennes. Et il me semble qu'en termes d'endettement public et de déficit public, nous avons signé des engagements. Donc, si vous voulez, la question des services publics aussi, elle est posée d'ailleurs dans le grand débat lorsqu'on regarde un peu les contributions, me semble-t-il, en faisant beaucoup appel aux collectivités locales. Mmh. Et parce qu'elles gèrent beaucoup de services publics de proximité et des services sociaux, si on pense au département. Donc là aussi, il faudrait peut-être imaginer une réponse. La fiscalité, il y a l'État, il y a les collectivités aussi. Et donc, il était déjà envisagé avec la suppression de la taxe d'habitation, de revoir cette fiscalité locale. Peut-être que des choses sont à attendre là-dessus. Mais on rentre dans des problèmes assez complexes. Et je pense que la parole présidentielle, elle va se situer à un niveau de force et de généralité qui aura l'avantage peut-être d'être clair, mais qui a le risque ensuite de sembler un peu, je dirais pas hors sol, mais...
Un peu jupitérien, vous voulez dire. Mathieu nous demande sur franceinter.fr comment les données ont été réellement analysées, la méthodologie n'a pas été rendue publique, les algorithmes non plus. Comment donner donc du crédit à cette synthèse et à ses suites? Est-ce qu'on sait, alors ce sont des cabinets évidemment très sérieux qui ont fait ce genre de choses et qui ont l'habitude d'analyser ce genre de résultats, mais effectivement comment ça marche en fait réellement? Quels mots on met dans des algorithmes pour en sortir des conclusions?
Ça c'est très intéressant aussi parce que c'est un moment de prise de conscience, ce débat, qu'il faut de la démocratie, de la délibération plus fréquente entre les personnes physiquement, mais que notre démocratie devient aussi numérique. Et donc là, on nous parle d'algorithme. Alors déjà, la partie de la population qui comprend ce terme et qui sait de quoi il s'agit, à mon avis, n'est pas majoritaire. Donc, rendre transparent, débattre de ceci, expliquer comment on fabrique des agrégats. Donc, il faut nous dire ce que le code d'un algorithme, comment il tourne, c'est-à-dire comment il sélectionne l'information.
Ce sont des mots-clés, en fait, qui sont rentrés, c'est ça l'idée?
Il y a des mots-clés, mais dans les codes, on le voit avec Facebook, on le voit avec ce qui se passe aux États-Unis depuis plus longtemps. Vous avez un bouquin de O'Neill qui explique bien ça. Il faut faire très attention parce que les algorithmes peuvent créer de l'injustice sociale.
Parce qu'il y a deux choses. Sur les algorithmes, vous avez des problèmes de polarité. C'est-à-dire que quand on a des contenus sémantiques, que Monsieur Durand, répondant à donnant ses doléances, dit « Ah bah bravo, champion, hein, formidable les impôts !» Comment vous l'interprétez quand vous êtes une machine? Tout ce qui relève de l'ironie, qui en plus est particulièrement utilisé en France, dans notre pays, est très compliqué à analyser, puisqu'il faut que la machine détermine, que l'algorithme détermine si la personne dit quelque chose en soutien ou en rejet. En revanche, quand on est sur la plateforme avec un certain nombre de questions fermées, là on retrouve les formules classiques de sondage, et là, pour le coup, c'est très simple. Les gens ont répondu oui, ils ont répondu non. C'est très classique et les statistiques qui en sont retirées sont incontestables.
Mais en même temps, dans les fameuses 35 questions, c'est vrai que c'est compliqué de répondre de manière extrêmement fermée, en fait, de répondre algorithmiquement parlant, pardon de le dire comme ça, Olivier Roquant.
Oui, et puis il y avait quand même des interrogations sur le caractère très fermé, c'est-à-dire très orienté de la présentation des choses, sur la fiscalité, même sur l'écologie.
Il y avait des formulations qu'un institut de sondage traditionnel n'aurait pas osé faire parce que la question était trop biaisée ou trop orientée.
Voilà, et ça a même causé le départ de la...
De Mme Joanneau, la première qui était en charge de ce débat. Vous évoquiez tout à l'heure les cahiers de doléances qui étaient effectivement des lettres manuscrites. Comment on fait? On peut mettre une lettre manuscrite dans un algorithme? C'est une question très sérieuse. Ou est-ce que ça se retranscrit et donc les gens qui les lisent mettent eux-mêmes les mots dans... Comment ça marche?
Ça a été scanné.
Ok.
Donc il y a la possibilité de le traiter de façon numérique. Mais... certains veulent interpréter ces textes de face à l'ancienne, comme on dit. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas tourner des machines, mais Gaël Sliman a raison. Le problème majeur, c'est une question de sens et de signification. Si vous traitez de façon un peu mathématique et statistique des termes, vous tordez le sens du locuteur. Et ça pose un problème très important. Donc l'interprétation des cahiers de doléances, elle doit se faire, de façon humaine, avec des sociologues, des historiens. C'est ça ce qui compte.
Voilà, il faut de la chair humaine pour que ça marche. Effectivement, quand c'est l'humain qui parle, faut que ce soit l'humain qui analyse et qui réponde. Bonsoir Jean.
Oui, bonsoir.
Bienvenue Jean.
Une des grandes priorités du président Macron, c'était la transition écologique. Or, malgré tout ce qui a été dit sur le plateau, c'est un leurre. Ce grand débat est un leurre. Pourquoi ? Question trop générale, question fermée, thème extrêmement cloisonné entre eux, formulation orientée. Je reprendrai ce que disait un grand avocat en droit de l'environnement, c'est très simple, et ce que disait aussi un climatologue, la transition écologique est uniquement présentée comme un coût dont le financement pose problème, jamais comme une source d'économie, d'emploi, d'opportunité, d'activité. Et ces enjeux, réduits à quelques banalités sur la voiture et le chauffage, rien ou presque rien sur la biodiversité, les déchets, les produits chimiques ou l'eau.
Allez-y, Jean, pardon, finissez.
On a des doutes sur la pertinence des questions posées. Et je rajouterai juste un petit mot. Hein. On parle de 11 millions de dépenses. Moi, les débats auxquels j'ai assisté, ce n'est que des associatifs qui l'ont organisé. Ça a coûté zéro. Donc, où est parti cet argent ?
Alors, voilà. On va essayer de répondre à ces deux questions. Jean, d'abord sur la transition écologique, la difficulté d'approche de ces questions-là dans ce grand débat, Gaël Sliman.
Oui, notre interlocuteur a raison.
Vous rappelez que c'est là que ça commence pourtant, hein, au fond, sur la taxe carbone.
Absolument, c'est là que ça commence et c'est de là que tout part. Mais d'ailleurs, comme ça s'est terminé sur cette histoire de taxe, finalement les Français, sur ces sujets-là, ce qu'on enregistre dans les enquêtes, sont assez ambivalents pour ne pas dire plus. À la fois, ils nous disent avoir pleinement conscience de l'importance de cette transition environnementale, des risques écologiques, de la nécessité de défendre l'environnement, et dans le même mouvement, ils nous disent qu'ils ne sont pas prêts à ce qu'on augmente les taxes et les impôts en matière de fiscalité, ou qu'on essaye de corriger leur comportement, comme vous l'avez vu, alors dans un registre différent, on touchait à la voiture, sur les 80 km/h pour la sécurité routière. Et les gens y étaient très largement hostiles. Mais le pauvre gouvernement a essayé plutôt de rendre service à notre interlocuteur au téléphone, puisque dans les questions fermées qui ont été posées, ils ont quand même essayé de pousser des arguments en faveur de l'environnement. Je vous citerai une question que j'aurais pas formulée moi comme ça dans une question de sondage, parce que j'aurais trouvé ça trop orienté, qui consistait à dire « Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que chacun, à titre individuel, peut protéger l'environnement ?» C'est difficile de répondre non quand même. On a 86% de réponses oui, et ça a été utilisé pour dire les Français ont bien en tête que l'environnement c'est important, alors que globalement dans les contributions spontanées, ce n'est pas ressorti à un niveau si spectaculaire. Et puis il y a un autre résultat de la contribution, enfin des contributions qui vient éclairer ce que je vous indique là, qui est que 56% des contributeurs se disent opposés à l'idée de payer un impôt, alors la formulation est alambiquée, encourageant un comportement bénéfique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, même si c'était pour favoriser l'environnement, il s'agirait de taxes supplémentaires, les Français, on l'enregistre dans les sondages, mais aussi dans les contributions, sont radicalement opposés.
Il y avait une suite à la question de Jean, c'est la même que celle d'André d'ailleurs sur franceinter.fr. D'où vient la dépense des 12 millions d'euros pour organiser ce débat ? On sait ça ou pas ? Pourquoi ça coûte 12 millions, en fait, d'organiser ce débat ? Est-ce que c'est des histoires de quoi ? De location de salles de... Mais ça n'a pas été fait au niveau de l'État. Donc, d'où vient cette somme ? Est-ce qu'on le sait ?
Moi, je ne suis pas apte à répondre à cette question. J'ai vu aucun compte. Je ne sais pas du tout comment l'argent a été dépensé. Sur l'écologie, par contre, pour répondre à votre dernier auditeur, je pense qu'on interprète beaucoup depuis hier les contributions en ligne, parce qu'entre guillemets, c'est ce qu'il y a de plus rapide et facile. Il faudra vraiment prêter attention aux conférences citoyennes des 21 régions où il y avait des personnes tirées au sort, donc qui dérogent à la sociologie CSP+, et aussi aux réunions locales. Parce que là, dans ce qui apparaît déjà de ces contributions au débat, mais pas numériques, la question de la bonne alimentation, de la transformation de l'agriculture, la question de l'eau et de la biodiversité ont été évoqués. Donc je pense que dans ces comptes rendus de synthèse, il faut aller regarder au-delà de ce qui est le plus commenté depuis hier.
Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
C'est vous le dernier, Thomas. Faites un peu vite, mais allez-y, je vous en prie, soyez le bienvenu.
Je vais faire très très vite. Surtout que c'est pas une question, c'est plus une remarque. Oui. Et en fait, on a beaucoup parlé du fond, et je vais parler en trois secondes de la forme. En fait, on a beaucoup dit qu'il va y avoir un problème insoluble puisqu'on veut augmenter les dépenses en baissant les recettes. Donc, il va falloir que le président prenne des décisions là. Et je pense qu'on a un président qui est quelqu'un d'une personnalité très dogmatique. Là où il va falloir quelqu'un de très pratique. Et moi, malheureusement, je pense que c'est un peu la fin du chemin pour Monsieur Macron. C'est-à-dire que je pense que toutes ses qualités de communication, il les a bien mises en valeur jusque-là, il a gagné beaucoup de temps, et je pense que là, il va falloir vraiment prendre des décisions, et que je crois, alors j'espère que je me trompe, mais qu'il n'est pas capable en fait de ça, et je crois que là, on va se retrouver coincé entre lui et M. Philippe. J'ai bien peur qu'on ne soit pas capable d'être face à des gens qui prennent des décisions.
Merci beaucoup Thomas. Tiens, on parlait d'algorithme tout à l'heure. Est-ce que ce genre de choses, finalement, Gaël Slimane, est dans le logiciel d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il sait analyser et donner derrière?
Je pense que ce qui a été dit par Édouard Philippe et la manière dont a été scénarisé tout cela fait qu'ils savent l'un et l'autre qu'il faudra faire des annonces extrêmement fortes. Donc je ne partage pas l'inquiétude de l'auditeur. Il est possible en revanche que ce qu'annoncera Emmanuel Macron ne convienne pas aux Français. Et là où votre auditeur a raison, c'est que pendant trois mois, bon an mal an, il a quand même grappillé point de popularité après point de popularité et obtenu, grâce à ce grand débat, eh bien que le mouvement des Gilets jaunes cesse d'être majoritairement soutenu par les Français et que sa popularité revienne à des niveaux moins catastrophiques. Mais votre auditeur a raison. Maintenant, il va falloir faire des annonces très concrète, et c'est là que, en général, les difficultés arrivent.
Tiens, et en parlant de Gilets jaunes, on a Léo sur franceinter.fr qui nous dit « Pourriez-vous parler du site Le Vrai Débat, lancé par les Gilets jaunes, et qui a rassemblé aussi de nombreuses contributions plus complètes, puisque non verrouillées par des questions fermées ?» Et c'est précisément ça qui va poser souci, Olivier Roucan, parce que toutes ces contributions-là qui ont été posées ici et là, forcément, on les retrouve pas, et elles sont pas analysées
non
plus dans les résultats.
Elles n'ont pas été commentées hier. Par contre, vous avez un observatoire du Grand Débat qui existe, et qui a analyse ces textes des chercheurs donc indépendants, et il y aura quand même un compte-rendu de ces contributions.
Et on attend donc ce que dira le président de la République, effectivement, quand il le dira et à quel rythme il le dira. Ce sera évidemment l'occasion d'un autre téléphone sonne. Merci à tous de votre présence et de vos nombreuses questions. Portez-vous bien.